بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ فرير، أولو الله سبحانه وتعالى qui nous a permis une nouvelle fois de nous réunir pour cette assise. Et nous lui demandons de la rendre profitable pour chacun d'entre nous. Et on loue Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a accordés et que l'on ne peut dénombrer. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne pourrez pas les dénombrer. Chers frères, parmi les grands bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'homme, il y a le bienfait de la langue. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn. Ne lui avons-nous pas assigné deux yeux, une langue et deux lèvres? La langue est donc un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala envers le serviteur, et c'est son moyen de communication. C'est avec sa langue qu'il parle, qu'il discute, qu'il interroge. La langue est donc un bienfait immense, mais seul celui qui a perdu la parole connaît réellement sa valeur. Lorsqu'il ne peut pas se faire comprendre, ou qu'il ne peut se faire comprendre que par des gestes, il reconnaît alors le grand bienfait de la parole. Et avec cette langue, nous devons prononcer la meilleure des paroles et la plus méritoire d'entre elles, qui est la parole de l'unicité, la ilaha illallah. Il n'y a pas de divinité en droit d'être adorée en dehors d'Allah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la meilleure des paroles est la ilaha illallah. C'est par cette parole que nous sommes entrés en islam et que nous faisons partie du nombre des musulmans. C'est par cette parole que le croyant s'élève en degré ici-bas et dans l'au-delà. Nous devons donc multiplier la prononciation de cette parole sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et œuvrer selon ce qu'elle implique. Nous devons également prendre garde à ne pas prononcer avec cette langue une parole de mécréance qui rendrait vaine l'ensemble des œuvres. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ont mécru après avoir été musulmans. L'homme aura donc des comptes à rendre sur les mots qu'il dit et qu'il prononce dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Toutes les paroles que l'on prononce sont inscrites et nous serons interrogés à leur sujet. Ce bienfait qu'est la langue sera donc témoin pour nous ou contre nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Il y a des paroles qui rendent vaine la religion du musulman et le plongent dans les plus profonds abîmes, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des paroles qui élèvent le serviteur au jardin des délices, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, le serviteur peut prononcer une parole agréée d'Allah sans y prêter attention, et Allah l'élève par celle-ci en degré. Et certes, le serviteur peut prononcer une parole courroucant Allah sans y prêter attention, et il tombe à cause de celle-ci en enfer. Voilà donc où peut mener la langue. C'est pour cela que les membres du corps s'adressent à elle et lui disent: crains Allah vis-à-vis de nous, crains Allah vis-à-vis de nous. Si tu es droite, nous serons tous droits, et si tu dévies, nous dévierons tous. Le musulman doit donc veiller à ne prononcer que des bonnes paroles et se rappeler constamment de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Soit il dit du bien et Allah rendra sa parole profitable, soit il se tait et il obtient ainsi le salut. Allah subhanahu wa ta'ala a donc ordonné à ses serviteurs de prononcer des bonnes paroles. Il a dit subhana wa qulu lin-nasi husna, et dites de bonnes paroles aux gens. Et les bonnes paroles, elles ont un impact positif sur les gens. C'est par la bonne parole que l'on appelle à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par la bonne parole qu'on oriente les gens vers le droit chemin. Et c'est par la bonne parole que l'on réconcilie entre les gens, et ainsi de suite, parmi les œuvres de bien découlant de la bonne parole. Quant aux mauvaises paroles, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre celles-ci, car elles provoquent l'inimité et la haine entre les gens, ainsi que des conflits et des divisions. Allah subhanahu wa ta'ala nous les a donc interdites. Et les vices de la langue sont très nombreux, ainsi que les mauvaises paroles interdites, et on compte parmi eux la médisance. Et comme cela a été annoncé, c'est le sujet de la conférence d'aujourd'hui, et nous allons aborder à ce sujet 8 questions, incha'Allah ta'ala. La première question est: quelle est la définition de la médisance? Quelle est la définition de la médisance? La médisance est le fait d'évoquer ton frère parce qu'il déteste, ou en des termes qu'il réprouve. La médisance, c'est le fait d'évoquer ton frère parce qu'il déteste, ou en des termes qu'il réprouve. Que ce que tu as dit sur lui soit vrai ou que ce soit faux. Et si ce que tu as dit sur lui est vrai, alors ceci est la médisance. Si ce que tu as dit sur lui est vrai, alors ceci est la médisance. Et si tu as menti sur lui, alors en plus d'être de la médisance, c'est de la calomnie et de la diffamation. D'après Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Il s'adressa à ses compagnons et leur posa cette question. Ils répondirent: Allah et son messager savent mieux. Il dit alors: la médisance, c'est le fait que tu évoques ton frère parce qu'il déteste. On lui dit alors: et vois-tu si ce que je dis sur mon frère se trouve en lui, c'est-à-dire si ce que je dis sur lui est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: si ce que tu dis se trouve en lui, alors tu as certes médit sur lui. Et si ce que tu dis ne se trouve pas en lui, tu l'as certes calomnié. Tu l'as certes calomnié. La deuxième question est: quel est le jugement de la médisance? Quel est le jugement de la médisance? La médisance est interdite à l'unanimité. Il n'y a pas de divergence à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir et très miséricordieux. Allah subhanahu wa ta'ala a donc assimilé dans ce verset la critique du musulman au fait de manger la chair de son frère après sa mort. Et il est évident qu'un être humain à la nature saine sera répugné par le fait de manger la chair d'un homme, qui qu'il soit, même si c'est un ennemi mécréant. Alors que dire du fait de manger la chair de son frère en religion, ou de son frère de sang après sa mort, après que sa chair se soit détériorée? Alors de la même manière, il convient aux musulmans d'être répugnés par la médisance, car elle est pire que le fait de manger la chair de son frère mort. Médire sur ton frère est pire et plus répugnant que de manger sa chair après sa mort. Et parmi les preuves de la sunna sur l'interdiction de la médisance, Usama ibn Shuraik radiallahu ta'ala anhu a dit: je suis sorti avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au pèlerinage, et les gens venaient le voir. Quiconque lui disait: ô messager d'Allah, j'ai fait le sa'i avant le tawaf, j'ai devancé une chose ou j'ai retardé une chose, c'est-à-dire dans les rites de son pèlerinage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondait alors: nul gêne, sauf à un homme qui a dénigré un homme musulman en étant injuste, c'est bien celui-ci qui a commis un péché et qui a péri. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud, rahimahullah. D'après Saïd ibn Zayd, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on compte certes, parmi les plus graves sortes d'usure, le fait de porter atteinte à l'honneur du musulman sans aucun droit. Subhanallah. Parmi les plus graves sortes d'usure, le fait de porter atteinte à l'honneur du musulman sans aucun droit. Et le hadith est également rapporté par Abu Dawud, rahimahullah. D'après Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jour du sacrifice, durant le pèlerinage d'adieu, certes vos sangs, vos biens et vos honneurs sont pour vous sacrés, comme la sacralité de ce jour, dans ce pays, durant ce mois, et vous rencontrerez votre Seigneur et il vous interrogera sur vos œuvres. Et ce hadith est reconnu unanimement authentique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc comparé le sang, les biens et l'honneur du musulman à la sacralité de ce jour. Et quel était ce jour? Le jour du sacrifice, le meilleur jour de ce bas monde. Dans ce pays, c'est-à-dire Mecca, la Mecque, qui est le meilleur endroit sur terre, durant ce mois, le mois de Dhul-Hijjah, qui est un des quatre mois sacrés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc dit que le sang, les biens et l'honneur du musulman sont sacrés, comme ce jour, comme ce pays et comme ce mois. Ce hadith prouve donc la sacralité de l'honneur du musulman et la dangerosité d'y porter atteinte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala réforme donc nos langues et nous pardonne nos manquements. La troisième question porte sur la médisance aggravée. Qu'est-ce que la médisance aggravée? La médisance aggravée est la médisance des savants et des gouverneurs. Si toute la médisance est interdite, en dehors des cas qui font exception et que nous évoquerons après, inshallah ta'ala, il faut savoir qu'elle diffère, et notamment lorsqu'en découle une corruption immense, comme la médisance sur les savants et les gouverneurs. Et ce, car médire sur les savants et les gouverneurs, les dénigrer et les critiquer, sont des causes de corruption des affaires religieuses ainsi que des affaires mondaines. En effet, si les gens négligent les savants, ils se détourneront d'eux et s'orienteront alors vers les ignorants qu'ils interrogeront et vers qui ils reviendront. Ils s'égareront alors du droit chemin par ignorance ou par passion. Et si les gens négligent leurs gouverneurs, ils les détesteront puis se soulèveront contre eux. À cause de cela, il se produira alors comme effusion de sang, atteinte aux honneurs, pillage des biens et corruption sur terre, ce dont seul Allah subhanahu wa ta'ala a connaissance. Et nous sommes témoins à notre époque des conséquences de cela dans différents pays, qu'Allah subhanahu wa ta'ala rétablisse la paix et la sécurité dans les pays musulmans. Et c'est pour cela que le musulman s'étonne. Le musulman, doué de raison, s'étonne qu'une personne puisse malgré cela se réjouir de voir un peuple se révolter alors que nous avons pleine connaissance des conséquences néfastes et désastreuses de ces révoltes. Wallah al-musta'an. Et à notre époque, le dénigrement des savants est apparu sous forme d'accusation d'être transigeant, ou alors en les accusant d'ignorer l'actualité, ou encore de s'isoler de la communauté, et d'autres paroles semblables parmi les critiques infondées n'ayant pour but que d'éloigner la communauté de ces savants. Et le dénigrement des gouverneurs est apparu sous forme d'accusations de perversité, de débauche, voire même de mécréance ou de lutte contre Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que d'alliance aux mécréants et autres accusations et critiques injustes semblables. Et la critique des détenteurs de l'autorité parmi les savants et les gouverneurs est la religion des Khawarij, les chiens de l'enfer, ainsi que des Mu'tazila après eux. Et à cette époque, certains ont hérité cela d'eux, et comme ces héritiers sont nombreux, et quel mauvais héritage. L'imam Sahl ibn Abdillah at-Tasturi rahimahullah ta'ala a dit: les gens ne cesseront d'être sur le bien. Les gens ne cesseront d'être sur le bien tant qu'ils respecteront leurs gouverneurs et leurs savants. S'ils les respectent et les honorent, alors leur vie ici-bas et dans l'au-delà seront bonnes. Et s'ils les méprisent, ils corrompront alors leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Et Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, a dit: nos grands parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous interdisaient et disaient: ne dénigrez pas vos gouverneurs. Ne dénigrez pas vos gouverneurs. Ne les trompez pas et ne les détestez pas. Craignez Allah et patientez, car certes l'heure est proche. Et avant de terminer sur cette question, j'aimerais attirer votre attention sur un point important au sujet d'une chose qui s'est répandue à notre époque, et malheureusement même chez certains étudiants en sciences. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde à tous la rectitude. Cette chose est que l'on entend des gens parler sur des gouverneurs qui ne sont pas leurs gouverneurs, c'est-à-dire sur les gouverneurs d'un pays autre que le leur. Et lorsqu'ils sont conseillés, ils disent: ceux-là ne sont pas nos gouverneurs. Le noble cheikh Ubayd ibn Abdillah al-Jabiri, qu'Allah le préserve et allonge sa vie dans l'obéissance, a été interrogé à ce sujet. Et il a répondu en résumé que ceci est une erreur de cette époque et que ce n'est pas permis pour ce qui en découle comme méfait. Pour ce qui en découle comme méfait. Et il y a parmi ces méfaits que si l'on dénigre le gouverneur d'un autre pays, le gouverneur musulman d'un autre pays, les gens de ce pays pourraient alors se mettre à dénigrer le gouverneur d'un autre pays, et certaines personnes pourraient alors le suivre dans ce dénigrement et voire même rejoindre les Khawarij. De la même manière, si un gouverneur musulman est un partisan d'un groupe parmi les groupes de l'innovation et de l'égarement, ceci ne rend pas permis le fait de le dénigrer ouvertement. Cependant, cela n'empêche pas de réfuter les erreurs de ce groupe et de mettre en garde contre ce groupe sans pour autant dénigrer ce gouverneur. Sans pour autant dénigrer ce gouverneur. Ceci était donc une petite parenthèse à ce sujet et nous passons maintenant à la quatrième question, inshallah ta'ala. La quatrième question est: quels sont les méfaits de la médisance? Quels sont les méfaits de la médisance? Les méfaits de la médisance sont très nombreux et on compte parmi eux le fait de rabaisser le musulman et de porter atteinte à la sacralité de son honneur, et ceci suffit comme péché. Mais aussi, quelle est une des causes de division et de dissension entre les musulmans alors que les musulmans sont des frères? Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: innama al-mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Combien de frères qui étaient unis furent divisés à cause de la médisance? Combien d'amis sont devenus ennemis à cause de la médisance? Combien de proches se sont éloignés à cause de la médisance? C'est donc un grand mal. Et c'est pour cela que le musulman doit prodiguer des efforts pour s'en éloigner et ne pas délier sa langue sur les honneurs de ses frères et sœurs. La cinquième question est: quel est le châtiment du médisant? Quel est le châtiment de celui qui pratique la médisance et qui laisse délier sa langue sur les honneurs de ses frères et de ses sœurs? Il est certes venu dans les textes authentiques certaines choses au sujet du châtiment de ceux qui médisent les gens sans aucun droit. Parmi cela, l'exposé de la gravité du péché de la médisance, même si ce n'est qu'une parole. Même si ce n'est qu'une parole. Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit: j'ai dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te suffit de sa fille, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit comme ceci et comme ça. Elle voulut dire par là qu'elle était petite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit: tu as certes prononcé une parole qui, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle la polluerait. Tu as certes prononcé une parole qui, si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle la polluerait. Regarde donc cette menace immense pour une parole qui est vue par beaucoup de gens comme étant sans gravité. La médisance est également une des causes du châtiment de la tombe. Il est rapporté dans le hadith authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes et il les a écoutés se faire châtier. Il a alors dit: ces deux-là se font certes châtier. Ces deux-là se font certes châtier. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grand. C'est-à-dire quelque chose de grand aux yeux des gens. Car les gens ne se rendent pas compte de la gravité de cela et sont négligents alors que cela fait partie des grands péchés. Il a ensuite dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'un d'entre eux se fait châtier à cause de l'urine et l'autre à cause de la médisance. Et ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed rahimahullah et d'autres d'après Abu Bakr. Et parmi les châtiments de la médisance, ce que rapporte Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, qui a dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: lors de mon ascension, je suis passé à côté de gens qui avaient des ongles de cuivre avec lesquels ils se déchiraient les visages et les poitrines. J'ai alors dit: qui sont ceux-là, ô Jibril? Il me répondit: ceux-là sont ceux qui mangent les chairs des gens et portent atteinte à leur honneur. Subhanallah. Et le hadith est rapporté par l'imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. La sixième question est: comment se repentit-on de la médisance? Comme on l'a vu, la médisance fait partie des péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à ses serviteurs de se repentir de tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis: ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et les conditions du repentir sont au nombre de trois. La première est de délaisser totalement le péché. La première condition du repentir est de délaisser totalement le péché. La deuxième est de le regretter, c'est-à-dire d'avoir des remords, d'avoir commis ce péché. La troisième est d'avoir la ferme volonté de ne plus y retourner, c'est-à-dire la ferme volonté de ne plus commettre ce péché. Et si le péché est lié à un droit d'une personne, comme la médisance, qui porte atteinte à la personne, une quatrième condition est alors obligatoire. Et quelle est-elle? C'est le fait de s'en affranchir. C'est le fait de s'en affranchir. C'est-à-dire, dans le cas de la médisance, de demander pardon aux personnes concernées. De demander pardon aux personnes concernées. Donc, si ce que tu as dit est parvenu à la personne sur laquelle tu as médit, tu dois alors lui dire « J'ai parlé sur toi et j'espère que tu m'excuses. »« J'ai parlé sur toi et j'espère que tu m'excuseras. » Et s'il te pardonne, alors alhamdoulillah. Mais si tu ne lui demandes pas pardon, si tu ne lui demandes pas pardon, il y aura alors compensation par les bonnes et les mauvaises actions au jour de la résurrection. En effet, Abu Hurayrata radiallahu ta'ala anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque a commis une injustice, quiconque a commis une injustice à l'égard de son frère, touchant à l'honneur ou au bien, qu'il s'en affranchisse aujourd'hui, qu'il s'en affranchisse aujourd'hui avant qu'on lui réclame le jour où il n'y aura plus de dinars ni de dirhams. Dès lors, s'il a des œuvres pieuses, on lui en prendra à hauteur de son injustice. Et s'il n'a pas d'œuvre, on prendra alors des mauvaises actions de son frère qui seront mises sur lui. Qui seront mises sur lui. » Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Ceci est donc dans le cas où cela lui est parvenu. Si cela lui est parvenu, tu dois aller lui demander qu'il t'excuse. Mais si cela ne lui est pas parvenu, que la personne sur laquelle tu as médit n'est pas au courant de cela, alors la majorité des savants sont d'avis qu'il n'est pas obligatoire de lui demander pardon, mais qu'il suffit d'invoquer en sa faveur et de le mentionner en bien. Il suffit alors d'invoquer en sa faveur et de le mentionner en bien. En effet, si tu l'informes alors qu'il n'en a pas connaissance, ceci pourrait provoquer de l'inimité entre vous et ceci s'opposerait alors au but de la réconciliation qui est recherchée. Ceci s'opposerait au but de la réconciliation qui est recherchée. La septième question est: comment doit-on se comporter avec le médisant? Comment doit-on se comporter avec le médisant? Si tu te trouves dans une assise et qu'une personne est en train de médire, que dois-tu faire? La première chose, si tu écoutes le médisant et qu'il convient, que tu le fasses taire, si cela est possible. Car ceci est une chose blâmable qui est commise en ta présence. Il est donc obligatoire pour toi de l'interdire et de le condamner. Par la force, pour celui qui détient l'autorité. Par la langue, pour celui qui ne détient pas l'autorité. Et par le cœur, pour celui qui ne détient rien de cela. Et la preuve à ce sujet est le hadith rapporté par Muslim, d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu ta'ala anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque parmi vous voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Et ceci est le plus niveau le plus faible de la foi. Ceci est donc la première chose à faire lorsque tu entends une personne médire, une personne qui médit en ta présence. La deuxième chose est que tu dois défendre l'honneur de ton frère. Tu dois défendre l'honneur de ton frère ou bien l'honneur de ta sœur en islam. Et il y a en cela une récompense immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'après Asma bint Yazid radiallahu ta'ala anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque défend l'honneur de son frère en son absence, quiconque défend l'honneur de son frère en son absence, il incombe alors à Allah de l'affranchir du feu. Subhanallah, quelle récompense immense. Et le hadith est rapporté par Ahmed et d'autres, et il est authentifié par Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhim jami'a. Ceci est donc une récompense immense, mais malheureusement le diable nous fait souvent oublier. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous réformer. La troisième chose est que si tu ne peux rien faire de cela, si tu n'as pas la possibilité d'empêcher cette personne de médire et de la faire taire, et que tu n'as pas la possibilité de défendre l'honneur de ton frère, alors dans ce cas, qu'est-ce qui t'incombe? Il t'incombe alors de quitter cette assise. Il t'incombe alors de quitter cette assise. Car c'est une assise de mal et de désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a décrit les serviteurs du tout miséricordieux par des caractéristiques grandioses. Et parmi elles, le fait qu'ils ne sont pas témoins du mal et n'y assistent pas. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » Quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Donc, si tu te trouves dans une assise dans laquelle a lieu la médisance ou tout autre péché et que tu n'as pas les capacités de l'interdire, alors dans ce cas, il est obligatoire de quitter cette assise. Tu ne dois pas rester dans cette assise en pensant qu'il te suffit de condamner cela par ton cœur. Car si tu condamnais réellement ceci par ton cœur, il n'est pas possible que tu restes présent en étant témoin de ce mal. Si tu restes présent, c'est alors une forme d'agrément de ce péché, comme l'ont mentionné les gens de science. Si tu restes présent, c'est comme si tu agréais ce péché. Tu dois donc premièrement faire taire la personne qui médit. Tu dois ensuite défendre l'honneur de ton frère. Et si tu n'as pas les capacités de cela, tu dois quitter cette assise. Et tu ne dois pas dire « je condamne avec mon cœur » et rester là en présence de ce mal qui est commis sous tes yeux. La huitième et dernière question est « quelles sont les situations dans lesquelles la médisance est permise ?» Comme nous l'avons vu, la base est que la médisance est interdite. Cependant, la législation permet le fait d'évoquer une personne parce qu'elle réprouve dans certaines situations. Et ce, car l'intérêt de la médisance est prépondérant dans ce cas. Et les savants ont déterminé des situations qui sont les suivantes. La première est la plainte. Il est donc permis à celui qui est victime d'une injustice de porter plainte auprès du détenteur de l'autorité ou du juge, en disant « un tel a été injuste envers moi » ou « un tel a pris mon argent ou mes biens », etc. Et ce, afin qu'il le soutienne face à l'injuste et qu'il établisse entre la justice. La deuxième situation est lors de la demande d'aide dans le but de changer un mal. Il est donc permis dans ce cas que tu dises à celui dont tu espères l'aide « un tel fait ceci et cela, conseille-le ou blâme-le, mais ceci ne doit avoir lieu, que si tu penses fortement qu'il pourra réellement changer ce mal. Mais tu ne dois pas dévoiler les péchés de ton frère ici et là sous prétexte du conseil ou de vouloir l'empêcher de faire le mal. Mais tu ne fais cela que si tu penses fortement que cette personne à qui tu te confies pourra réellement t'aider à changer ce mal, incha'Allah ta'ala. » La troisième situation concerne la demande d'un avis religieux. Tu dis alors à celui que tu interroges, « Mon frère a été injuste envers moi et a fait ceci, quel est le jugement ? Mon époux ou mon épouse a fait ceci ou cela, quel est le jugement ? etc. » Cependant, malgré que cela soit permis, il est préférable dans ce cas de ne pas désigner la personne si cela est possible. On dira par exemple, un homme fait cela à son épouse. Que doit-elle donc faire? Quel est le jugement? Ceci est préférable malgré qu'il soit tout de même permis de le désigner, comme le prouve le hadith de Hind bint Utba radiyallahu ta'ala anha, lorsqu'elle a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Abu Sufyan est certain homme avare et il ne me donne pas ce qui me suffit pour moi et mes enfants. Y a-t-il donc un mal à ce que je prenne de son argent? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a alors répondu: prends ce qui te suffit à toi et tes enfants selon le convenable. Prends ce qui te suffit à toi et tes enfants selon le convenable. La quatrième situation est la mise en garde des musulmans contre le mal. La mise en garde des musulmans contre le mal. Et fait partie de cela l'exposé de la faiblesse des rapporteurs du hadith, ainsi que le fait de critiquer les témoins devant le juge. De critiquer des témoins devant le juge. Ceci est permis à l'unanimité et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Et il fait également partie de cela de mettre en garde l'étudiant qui prend la science d'un innovateur, qu'il assiste directement à ses assises ou bien qu'il écoute ses audios ou lise ses livres. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes mis en garde contre la tête des khawarij, dhul khawaisara at-tamimi, comme cela est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre le groupe des khawarij et les a nommés les chiens de l'enfer, comme cela est rapporté par Abu Daoud rahimahullah. De même que les compagnons après lui ont mis en garde contre les différents groupes qui sont apparus à leur époque, et ils ont mis en garde contre leurs leaders en les désignant par leur nom, en les désignant par leur nom. Et c'est sur cela qu'ont cheminé les imams des salafs après eux. Ils ont mentionné les noms de ceux dont le rapport du hadith n'est pas accepté. Et ils ont mis en garde contre les groupes. Ils ont mis en garde contre les groupes, contre les gens de l'innovation, contre leurs prêcheurs, contre leurs ouvrages erronés, et ce, afin de préserver la religion et porter le bon conseil aux musulmans. Et c'est sur cette guidée que cheminent les imams de la sunna à notre époque. Ils ont donc mis en garde contre les groupes égarés, comme le groupe des frères musulmans, le groupe des tablirs et autres parmi les groupes des gens de l'innovation et de l'égarement. Ils ont également mis en garde les musulmans contre certains ouvrages, comme le livre « À l'ombre du Coran » ainsi que son auteur Saïd Qutb. Et ceci n'est en rien de la médisance, comme veulent le faire croire certains ignorants et autres adeptes des passions. Ceci fait plutôt partie du bon conseil pour les musulmans. Ceci fait même partie de la lutte sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est même une des plus immenses formes de lutte, étant donné son intérêt et son profit immense. On posa la question suivante à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Est-il préférable pour toi que l'homme jeûne, prie et fasse l'i'tikaf, ou bien qu'il parle sur les gens de l'innovation? L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, répondit alors: s'il prie, jeûne et fait l'i'tikaf, cela n'est que pour lui, c'est-à-dire que cela ne profite qu'à lui-même. Et s'il parle sur les gens de l'innovation, cela est pour les musulmans. Cela profite à l'ensemble des musulmans. Ceci est donc préférable. Vous voyez donc comme l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a préféré que la personne parle sur les gens de l'innovation plutôt qu'elle ne s'occupe à la prière et au jeûne et à l'irtikaf surérogatoire. La cinquième situation dans laquelle la médisance est permise concerne celui qui commet la perversion publiquement. Il est alors permis de mentionner cela spécifiquement. Mais cela ne rend pas licite le fait de parler sur lui, sur autre que cette perversion qu'il commet publiquement, ou bien de dévoiler de ses péchés qu'il commet secrètement. La médisance dans ce cas est permise seulement sur cette perversion qu'il commet publiquement. La sixième et dernière situation est la description. Si une personne est connu auprès des gens par un surnom, comme le fait de dire un tel le boiteux, un tel le grand, un tel le borgne ou autre. On l'évoque selon ce par quoi il est connu dans le but de le décrire et le désigner. Seulement dans le but de le décrire et le désigner, et non pas dans le but de le rabaisser. Et ceci ne s'oppose pas à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ » et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets. En effet, le nommer par le surnom par lequel il s'est fait connaître ne l'attriste pas et ne lui nuit pas. Cela ne le rend pas triste et cela ne lui cause aucun préjudice. Il se peut même que ce surnom soit devenu comme son nom et qu'il ne soit désigné que par celui-ci. Enfin, pour résumer ce que nous avons vu, il est obligatoire pour nous de prendre garde à la médisance, car c'est un grand péché, surtout si la médisance porte sur les savants et les gouverneurs, car cette médisance est une médisance aggravée. Deuxièmement, il est obligatoire pour nous de nous empresser au repentir de la médisance, car la médisance est une des causes du châtiment de la tombe, comme on l'a vu, et c'est également une des causes du châtiment du feu après la résurrection, et le refuge est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, ce n'est pas toute médisance qui est interdite, mais elle est permise dans certains cas, lorsque son profit est prépondérant, comme on vient de l'exposer, et c'est d'Allah seul que provient la réussite. Enfin, on conclura cette conférence par cette parole d'Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, qui a dit « Prenez garde à la médisance, prenez garde à la médisance. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, qu'elle consume certes les bonnes œuvres plus vite que le feu consume le bois. » Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que nous avons lu et écouté. Nous lui demandons également de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas une preuve contre nous. Et nous lui demandons de purifier nos langues de la médisance ainsi que de tout autre vice, de nous pardonner nos manquements, nos erreurs et nos excès et d'accepter notre repentir. Il est certes pardonneur et très miséricordieux et il est celui qui répond aux invocations de ses serviteurs. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.